Sur Aligre FM 93.1. Je suis Anne Bouchard et je vous présente l'émission Les Grands S'amusent sur la transmission de nos aînés, nos mémoires vives. C'est la continuité du monde, de nos valeurs. Et c'est surtout du partage entre générations et une manière de se rapprocher les uns des autres. Aujourd'hui, je reçois le chef Rémi Lebon. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci de nous accueillir.
Super. De la cuisine de vos grands-parents et grands-parents, vous appreniez à pétrir la pâte, à faire mijoter de bons petits plats du terroir. Vous avez sauté le pas en devenant chef à 23 ans. Rémi Lebon, vous êtes un chef épicurien qui croquait la vie et prenait un plaisir fou à partager votre cuisine traditionnelle à votre image, spontanée et engagée. Depuis plusieurs années, vous nous régalez les papilles chez Fernand, votre restaurant rue Guizard dans le 6e à Paris. Moi, j'ai été touchée par votre fraîcheur d'enfant et votre enthousiasme infini. Alors, Rémi, qu'avez-vous reçu en héritage culturel et intellectuel ? En gros, quelles valeurs vous ont transmis vos parents, vos grands-parents ? Voilà.
Alors, la première, je pense, la vraie valeur, c'est le travail.
Ouais.
Mes parents, même mes grands-parents, ont toujours montré le chemin du travail, avec le fait de dire pour réussir, il faut faire des études. Bon, il faut aussi surtout bien s'épanouir dans ce qu'on veut rechercher.
Ouais.
Et puis, donc il y a eu cette mentalité déjà dès le début.
De se retrousser les manches.
De se retrousser les manches, d'y arriver. Par ses propres moyens aussi,
ouais.
Avec ses propres facultés.
Ouais.
Et voilà, donc...
Vous êtes de quelle région ?
Alors, mes parents sont nés dans le nord de la France.
Ouais.
Sont venus finir leurs études à Paris. Donc moi, je suis né à Paris. Et par adoption, on allait souvent en vacances, et toujours d'ailleurs, dans le Cotentin.
Ouais.
Qui est une région très chère. Et... Je ne vais pas dire je suis normand, mais d'adoption.
C'est votre région de cœur.
Voilà,
ouais.
C'est mon refuge. Et c'est une région effectivement très riche,
ouais.
Humainement, et aussi bon, pour ma profession de produits. De produits de la mer, de la terre, avec des vrais artisans, des producteurs.
Oui, c'est assez riche pour ça, oui.
Tout à fait.
Donc, ça petit, vous y alliez déjà en vacances ou c'est,
Alors, j'ai commencé à l'âge de 3 ans, où on allait louer des gîtes dans une ferme. Donc, j'étais déjà au cœur du travail des agriculteurs.
Ouais.
Et puis, c'était pratiquement chaque année. Et mes parents ont fini par acheter une petite maison perdue dans la Pampa. Et on y est très attachés.
Ah oui, donc vous passiez vos vacances à la ferme avec...
À la ferme, on suivait le fermier du matin au soir. Les parents n'avaient même pas besoin de s'occuper de nous. Et donc, on apprenait avec mes frères, parce que j'ai deux frères.
Mmh.
On suivait, on abreuvait les veaux, donnait à manger aux poules, chercher les vaches,
Et ça
faire
vous
des
êtes...
moissons. Moi, ça m'est resté très ancré dans mon cœur.
Dans votre cœur, ça vous a donné des envies déjà
Toujours,
petit.
Oui.
Et c'est quoi votre premier souvenir de plat ou d'odeur de plat ou...
Ben justement, c'est ces petits plats mijotés des grands-mères, qui nous recevaient encore dans le Nord, plutôt dans l'Aisne.
Mmh.
Des odeurs, évidemment, quand on est tout petit, et puis on traîne dans les pattes des grands-mères, et puis on goûte, on fait des choses ensemble.
Ouais.
Maman cuisinait bien aussi pour nous trois. C'est plus une cuisine bourgeoise, qui était très bien aussi. Et puis, bien sûr, encore une fois, la Normandie, où dans le gîte, on accompagnait la fermière... Donc des crêpes, des grands pot-au-feu, des choses comme ça.
Des choses qu'elle cuisinait sur le feu, enfin dans la cheminée ou...
Non, c'était encore... c'était déjà le gaz.
C'était déjà le gaz.
Mais avec des produits top cherchés dans son jardin ou à côté. Enfin,
donc elle avait son potager et puis c'était des produits hyper frais, hyper... Donc ça vous a donné le goût des produits simples.
Je pense que ça m'a donné l'envie d'y aller, quoi. Ça me plaisait. Et puis, il y avait aussi cette chance que j'ai eue. C'est qu'une fois de temps en temps, les parents nous emmenaient au restaurant. Et pour moi, c'était une grande fête. C'est-à-dire c'était pour moi un monde merveilleux. Voilà, d'accueil, de service à table, puis des plats merveilleux, quoi.
C'est tout un ensemble.
On s'amusait avec mes frères après à refaire le restaurant à la maison, le service, la cuisine.
C'était très amusant. C'est un peu le côté festif.
Tout à fait.
Ouais. Et puis, en France, on est quand même assez attaché. On a un côté assez traditionnel. On est assez attaché à nos trois repas par jour, un peu en famille ou avec des amis.
Alors, Complètement, complètement. Je ne connais pas un seul repas passé avec des amis. On ne parle pas de restauration, de gamelle.
Ouais.
Et ça, oui, c'est ancré chez nous. La France, c'est la gastronomie, la bistronomie, les producteurs de la terre à l'assiette, j'ai envie de dire. C'est un monde vraiment important pour notre pays aussi. À travers le monde, la France rayonne à n'importe quel endroit, notamment pour, bien sûr, nos plats bourgeois, mais aussi tout ce qui est découpe de poisson, découpe de viande. On a un art qui est transmis dans le monde entier.
Ah oui, ça, c'est vraiment c'est un savoir-faire à la française.
Oui,
ça,
c'est seulement aussi la partie cuisine, la partie aussi salle, hôtel, dans le monde entier. Le service à la française,
bien sûr. Ah oui.
Alors aussi avec des origines de l'Autriche pour la pâtisserie, de la Russie pour les grands services, etc. Mais il y a quand même une base très française.
Très française, qui est exportable
complètement.
Dans le monde entier.
Oui.
Et nous, par exemple, quand on va à l'étranger, quand on voyage, souvent, le plat français ou par exemple la baguette, le fromage, on a vite des choses qui nous manquent.
Complètement.
Donc, c'est pour ça que je trouve qu'on reste assez ancré dans notre tradition française. Hein. On a du mal à se...
J'ai eu la chance d'aller en Chine une dizaine de jours et je fonçais dans les marchés pour faire des plats chez mes amis. Et à un moment donné, je voulais regarder un peu pour acheter un fromage, un reblochon qui coûtait bien sûr une somme folle, mais on en avait besoin.
Ou
un verre de vin, voilà.
Et c'est rigolo. Et pourquoi vous pensez? Parce que j'imagine que c'est pas un manque de curiosité, parce que vous êtes par définition curieux, vous avez envie d'aller chercher, mais c'est quoi?
Je crois que c'est ancré dans notre ADN.
Ouais.
C'est la richesse de plusieurs générations.
Donc c'est rigolo parce que moi je pensais que peut-être c'est parce qu'on sait pas cuisiner ou qu'on a peur de s'aventurer vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais finalement, même un chef comme vous, vous dites que ça me manque quand même.
Bah oui, bon, après, moi, c'est vrai que je sais cuisiner, c'est un autre terrain, mais une personne lambda, je pense qu'à un moment donné, le retour d'un produit français là où elle est, c'est honorable.
Oui. Et alors, vous dites que vous avez le virus de Rungis. Racontez-moi comment vous avez, la première fois, votre
souvenir. Alors, la première fois où je suis allé à Rungis, j'étais à l'école hôtelière.
Oui.
Et puis, ce monde-là m'intéressait. Je suis allé en moto à l'époque. Et puis, je faisais un petit peu des extras chez moi, des voisins qui me demandaient un saumon, choses comme ça. Bien sûr, travailler pour des communions, par exemple. Donc, j'allais chercher mon saumon dans ma valise de moto. C'était pas terrible au niveau de l'hygiène à l'époque.
Mmh.
Et puis, c'est un monde incroyable. C'est une ville dans une ville. C'est un pavillon où, par exemple, pour les fleurs ou pour le poisson, c'est aussi grand que la gare du Nord. C'est, c'est des allées incroyables. Ça vit, ça bouge la nuit.
C'est une ville entière.
Ça ouvre à 11h jusqu'à... Enfin, ça fait le tour de l'horloge, pratiquement.
Et
Rungis, puis c'est le plus gros marché européen, voire peut-être même mondial. Toujours très dynamique. Le responsable, c'est Stéphane Lagnani, qui, lui, met tout en œuvre pour booster Rungis, et ça marche très très bien.
C'est énorme comme organisation, oui.
C'est
des produits qui viennent du monde entier?
Alors, il y a des produits, bien sûr, qui viennent du monde entier, des petits producteurs d'Île-de-France et de partout en France, d'ailleurs.
Ouais.
C'est... Le mieux, c'est d'y aller.
C'est vraiment
s'imprégner de cette ambiance, de voir l'arrivage du poisson la nuit, c'est merveilleux. On se demande, mais... C'est par tonne, d'une fraîcheur incroyable, tout ce qui est légumes, petits producteurs d'Île-de-France.
Est-ce qu'on peut y aller quand on n'est pas restaurateur?
Alors, on peut y aller en simple visiteur.
Ouais.
C'est bien d'être accompagné d'un chef ou de quelqu'un de la partie.
C'est mieux.
Vous n'avez pas le droit d'acheter. Il faut une carte d'acheteur, bien sûr. Mais c'est aussi bien qu'aller au Louvre.
Ah oui, c'est rigolo.
Des choses intéressantes.
Oui, parce que il y a tellement de choses qu'on a envie de.
Ça vit, ça bouge, c'est incroyable.
Et on peut goûter.
On peut, si on connaît un peu quelques personnes, on peut goûter.
Ouais.
Bon, après, ça reste très professionnel.
Ouais.
Les gens n'ont... Parfois, on voit à l'époque des groupes de Chinois ou de Japonais.
Ouais.
Bon, ils visitent, mais bon, il faut les laisser aussi travailler.
Oui, bien sûr. Mais vous, quand vous allez acheter, vous goûtez, j'imagine, quand même. Non?
Ah oui, je teste. Alors,
vous
évidemment,
testez.
Pas ouais. Le poisson, mais certains fruits, certains légumes, oui. Ouais. On peut toucher, regarder,
ouais.
Apprécier. La viande aussi, c'est merveilleux. Alors après... Il y a Rungis, c'est aussi les arrivages en direct pour le restaurant, qui sont autres et qui sont essentiellement des producteurs français.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Ouais, ouais.
Il y a deux routes, voilà.
Il y a deux, oui, c'est ouais. Ça. Alors, donc, avant de cuisiner, on va en général au marché, discuter avec des producteurs. Donc voilà, je vais vous emmener là, maintenant, au marché Rémy Le Bon. Voilà, on y va. Comme toutes les semaines, le filet de poulet est à 8,90€. C'est du poulet fermier élevé au grain en plein air et les cuisses sont énormes. Le volailler est du genre convivial et rigolard. Dans son camion, les plaisanteries avec les clients vont bon train. C'est les vacances, sa plus jeune fille est venue donner un coup de main. En plus des filets de poulet, je prends aussi 12 œufs. Il dit « Ah, les œufs aujourd'hui, c'est Emma ». Emma, tu nous fais une douzaine d'œufs aujourd'hui, s'il te plaît ? Il pouffe, je pouffe, la petite vieille derrière moi pouffe, le monsieur barbu pouffe aussi. Trop content d'avoir un public, il répète sa blague. Eh oui, mesdames et messieurs, maintenant c'est ma fille Emma qui fait les œufs. Vous inquiétez pas, elle a été élevée en plein air elle aussi. Mi blasée, mi amusée, la jeune Emma, qui est étudiante en deuxième année de Sciences Po, lève les yeux au ciel et hausse les épaules. Si elle compte sur un tarissement de la... Bon. C'était un extrait du roman Les Petites de Nathalie Bianco. Donc, je suis toujours avec mon invité Rémy Le Bon. Vous, Rémy, est-ce que vous avez un marché à Paris où vous allez, qui vous tient le plus à cœur ?
Alors, Anne, j'ai énormément de chance. Je suis à 30 mètres d'un marché à Malakoff, un
ouais.
Marché couvert, qui est juste exceptionnel. D'ailleurs, beaucoup de personnes viennent. C'est trois fois par semaine.
Mm-hmm.
Il est rempli. On trouve vraiment de tout. La dernière fois, j'ai acheté des oursins, il y avait des riz de veau,
ah oui.
Aussi bien une boucherie chevaline, pour ceux qui aiment le cheval.
Mm-hmm.
Il y a de tout, vraiment. Et puis une ambiance aussi très particulière, parce que c'est
ouais.
Très... de rassemblement de toutes sortes de pays aussi. Il y a un Chinois qui fait ses préparations sur place,
oui.
un Marocain qui fait son couscous sur place, c'est plein de choses. On peut même déguster des huîtres. Et c'est très vivant. Est très très frais et relativement bon marché pour un marché de l'Île-de-France.
Ah oui, donc on trouve un peu de tout.
Oui, c'est... complètement.
Ouais. Donc ça donne des idées aussi pour cuisiner,
ah,
parce
c'est
que c'est
ça,
très varié.
C'est très facile.
Ouais. Ouais. Et vous, justement, comment vous choisissez vos produits ? Comment vous...
C'est l'œil professionnel en premier, donc la fraîcheur.
Ouais.
Et puis je respecte les saisons. Là, on attend
ouais.
Les petites salades qui arrivent, les petites tomates,
ouais.
Les prochains légumes pour les ratatouilles, par exemple. Mais. Là, c'est encore les légumes, céleri, choux, betteraves. Donc, c'est plutôt en suivant les saisons.
Mmh.
Et puis, pour la viande ou le poisson, c'est aussi un critère de fraîcheur, de provenance et de ce qu'on a envie aussi de partager avec nos amis.
Oui, d'accord. Et vous y allez combien de fois par semaine au marché ?
Alors, j'y vais une fois. Je pourrais y aller plusieurs fois, vu qu'il est trois fois par semaine. Pardon.
Mmh.
Mais j'y vais généralement le dimanche et on se partage ensuite un plat en famille ou avec des amis.
D'accord, ok. Alors, on n'a pas encore abordé, c'est votre formation, en fait. Comment vous avez, je crois, commencé assez jeune par un CAP ?
Alors, c'est un CAP BEP dans une école hôtelière.
Ouais.
Donc, dès l'âge de, je dois avoir 15-16 ans, donc après la troisième.
Ouais.
Je me suis orienté dans une école hôtelière parce que le cadre scolaire lycéen ne me plaisait pas.
Mmh.
Et puis, je voulais faire ça depuis le début. Donc là, mes ailes sont sorties, je me suis bien envolé. J'ai fait 3 ans d'école hôtelière. Et puis, ce qui m'a permis d'avoir des diplômes. Ensuite, je me suis engagé dans un restaurant qui était pas trop loin de chez moi, qui s'appelait la Maison Blanche à l'époque,
oui.
Dans le 15e, et pour commencer un peu à tâter le terrain du travail.
Ouais.
Et puis j'ai fait ça 1 an et demi, et j'ai repris ensuite des études à l'École supérieure de cuisine française à Ferrandi, qui étaient les premières éditions de cette école supérieure.
Donc Ferrandi, vous pouvez nous dire un mot sur l'école ?
Ferrandi, c'est une école hôtelière à la pointe, je pense, pour vraiment trouver une belle formation, aussi bien en restauration qu'en salle. C'est très professionnel, avec un directeur aussi très actif et dynamique, M. Bonte. Et voilà, donc c'est une très belle école. Alors nous, je vous parle de ça déjà il y a plus de 30 ans. C'est les premières éditions de l'école supérieure. Et il y avait des rencontres avec des chefs à l'époque, des stages dans des 3 étoiles, 2 étoiles. J'ai pu profiter de tout ça.
Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il n'existe plus aujourd'hui ?
Ça existe. Maintenant, encore. Ça s'est beaucoup développé. Ouais. Je ne sais plus à quelle promotion. Ouais. Et elle reste toujours une très, très bonne école. Voilà.
C'est vrai que j'ai vu que vous aviez travaillé un petit peu, quelque temps, au Plaza Athénée.
Alors voilà, en fait, c'est à la sortie de l'armée. Il y avait encore l'armée à l'époque. Je suis arrivé directement de la gare de l'Est, parce que j'étais dans l'Est de la France, avec ma tête avec la boule à zéro. Et j'ai dit, avant de rentrer chez mes parents, je vais aller chercher du travail. Et je suis allé directement au Ritz, chez Guy Leguet, à l'époque. Et vraiment, on rentrait comme dans un moulin au Ritz à l'époque. Je me retrouve dans les cuisines devant M. Leguet. Et là, je lui dis, écoutez, moi, je vous connais par la presse. J'ai fait ça comme école. Je voudrais bosser chez vous. Et même si vous ne me payez pas pendant 2-3 mois, je veux bosser chez vous. Et là, il me regardait avec des grands yeux. Mais bon, c'est OK, mais bon, je te rappelle, là, j'ai pas de place. Et puis le lendemain, il m'a rappelé en me disant, bon, malheureusement, je peux pas te prendre. Mais au Plaza Athénée, il cherche un commis. Donc le Plaza Athénée, c'était à l'époque Gérard Salé, un grand ami maintenant, qui m'a pris sous son aile pendant 1 an et demi. Et j'ai fait pas mal de remplacements, c'était très intéressant. Aussi bien la nuit, les petits déjeuners, la journée. Donc j'ai appris plein de choses. Mmh. Je voulais en fait vraiment repartir à zéro de ma formation de l'école pour entrer dans le monde du travail. Voilà, en apprenant les gestes, les vrais gestes de professionnels.
Ouais. Ouais, donc là, c'est vraiment formateur parce que c'est
complètement
du concret.
Puis, là, j'ai la chance de tomber sur un chef exceptionnel comme Gérard Salé qui, avec une dextérité, montrait à tous la brigade vraiment le geste. Ça, c'est important.
C'est aussi important vous dites le geste, c'est quoi le...
Bah, par exemple, l'anecdote que Gérard Salé me fait sourire, et le chef aussi m'écoute, il le fera sourire, c'est tourner un artichaut. C'est-à-dire qu'un artichaut, vous prenez un couteau qui coupe très bien et vous effeuillez jusqu'à ce que vous découvriez le cœur de l'artichaut pour ensuite le travailler. Ouais. Et ça, bon, j'en ai tourné des caisses d'artichaut avec lui. J'ai réussi à le battre, mais j'ai appris le geste. Voilà. Pareil pour lever des filets de poisson, il y avait un poste pour le poisson, un poste pour la viande, un poste pour la grillade, un poste pour les légumes. Et puis quand on faisait tout maison, on passe par tous les postes, et là c'est très formateur.
Ah oui, d'accord. Ouais. Donc là c'est vraiment, vous voyez tout 360 degrés.
Impossible de passer à côté.
Ouais. Et ensuite, vous avez fait un tour au Grand Véfour aussi, non ?
Alors après...
Avec le chef Guy Martin.
Gérard Salé, que j'ai dit, bon, désolé, j'ai fait un peu le tour, je voudrais voir autre chose. Et puis oui, il m'a mis au Grand Véfour. Alors là, c'était avec Guy Martin, excellent chef aussi, très créatif. Et puis j'ai passé 1 an et demi aussi à ses côtés, passé de commis poisson à chef de partie poisson, qui était pour moi très honorable. Et ça a été aussi, autrement que le travail manuel, c'est aussi un travail d'équipe. On apprend les valeurs des équipes dans un endroit très luxueux, où on n'a pas trop droit à l'erreur, même pas du tout, avec une rigueur. Le chef était très rigoureux et ça a été vraiment aussi formateur de ce côté-là. Oui. L'entraide entre nous, de ne pas baisser les bras, de rassembler, voilà.
C'est hyper exigeant.
Exigeant, oui, il faut de l'exigence dans ce métier.
Et dans l'équipe, en général, vous êtes assez soudés
Comme on travaille énormément, quand même, avec quand même beaucoup de pression, des horaires... évidemment dur, et puis des services où le chef mène la danse, mais c'est pas forcément une valse, plutôt rock'n'roll. Et il faut être attentif à tout, aux cuissons, au départ des assiettes, à la chaleur des assiettes. Et il faut que ça soit impeccable. Donc il y a une rigueur là de travail incroyable.
Et on peut pas se permettre.
Et on aime ça parce que, enfin, moi j'aimais ça. Ouais. C'est parce que j'ai toujours, je pense, un peu aimé. La discipline aussi.
Ah oui ?
Oui, il y a une hiérarchie aussi dans la cuisine qui était à tenir, évidemment. Et la discipline fait aussi, il y a de l'ordre en fait. C'est, tout est ordonné.
Oui, c'est une discipline quasi militaire.
Militaire, je dirais pas le nom. Militaire, c'est... Alors l'armée, moi je l'ai faite, j'ai vu la discipline militaire. Mais d'ailleurs, mon associé aussi. Dans des troupes d'élite, mais on en garde toujours un peu évidemment de cette rigueur, de cette discipline qui s'applique et forcément un peu dans la hiérarchie de la cuisine, mais on est quand même autour du produit, c'est pas autour d'un fusil. Voilà, c'est la différence.
Oui,
c'est ça.
C'est la différence. C'est peut-être un peu plus sympathique.
Oui, quand même.
Et puis à 23 ans, vous devenez chef cuisinier à Maison Lafitte du restaurant La Vieille Fontaine.
Oui, alors parce que, bon, déjà, j'ai commencé à fonder une famille, comme beaucoup d'hommes. Et du coup, je voulais un peu aussi prendre des responsabilités, gagner un peu plus d'argent pour financièrement. Mmh. Et puis, j'ai un copain qui m'a proposé de reprendre le restaurant La Vieille Fontaine en tant que chef. Lui partait, il me proposait sa place, je suis allé voir. Je suis tombé amoureux de l'endroit, que c'est un hôtel particulier dans le parc de Maison Lafitte.
Ah oui.
Tenu par François Clair à l'époque, qui a eu 2 étoiles Michelin dans les années 80.
Ouais.
Et c'est un bâtiment chargé d'histoire, un établissement chargé d'histoire, une très belle maison. Il avait complètement retrousseré le concept de La Vieille Fontaine en le faisant en rôtisserie, avec une cuisine bourgeoise. Donc moi, ça m'allait très bien. Et j'ai fait ça pendant 3 ans.
D'accord.
Voilà, à mener des équipes, à recruter, à faire des services, bien sûr. Et ça a été à 23 ans, c'est jeune.
C'est jeune, oui, pour sauter le pas.
On a un petit côté fougueux aussi à l'époque, un peu tête brûlée. Et puis... finalement, ça s'est bien passé. C'est aussi une richesse de rencontrer des gens, de faire participer, faire travailler, emmener une brigade pour la réussite d'un service.
Ouais, parce que là, vous embarquez
équipe. Hein. Il faut que ça soit réglé comme une horloge suisse. Quoi.
Donc, et vous n'avez pas eu peur de sauter le pas, justement, à 23 ans, parce que c'est jeune pour diriger une équipe
Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. Non. À l'époque, c'était peut-être baissé, peut-être un peu. C'était mon petit côté... comme ça. Ouais. Et puis, alors oui, il y a eu des obstacles, hein, des échecs, et puis il y a eu des joies, beaucoup.
Ouais, ouais.
Et on grandit comme ça, par la force du travail.
Ouais,
encore une fois, on revient au travail.
Et ensuite, en 97, on vous appelle
alors,
chez 97, Fernand.
Ouais, c'est un ami qui est parrain de ma fille, d'ailleurs, qui me dit, tiens, il y a un type sympa dans le 6e qui tient un tout petit bistrot, il a une bonne gouaille, son petit bistrot fait 30 couverts, il en fait 100 à chaque service. Bon, alors je rencontre cette personne et puis il avait en vue de reprendre Fernand à l'époque, qui était en face de son petit bistrot, qui était une institution germano-pratine depuis 1970. Mmh. Et moi, j'ai dit, bon, moi je veux bien être ton chef, on y va. Lui s'occupait de la partie salle et moi de la cuisine. Donc ça n'a pas été non plus... C'était plus facile au départ, parce qu'on a tout de suite eu beaucoup de clients, et on n'était pas nombreux en cuisine, donc des heures incroyables à tout remettre en ordre, jusqu'à ce que, ça fait 24 ans que j'y suis, donc pareil, l'endroit était sympa, chargé d'histoire aussi dans un quartier que j'aimais beaucoup.
C'est un quartier qui bouge
assez drôle, festif. Parce que mes parents, quand ils sont arrivés à Paris pour leurs études... ont atterri dans ce quartier, dans une loge de gardienne pour financer leurs études.
Hein.
Et du coup, il y a plein de choses. C'est un peu, toujours un peu du romantisme dans ce que je fais.
Ah oui.
Et du coup...
de l'émotion.
Et puis, il y a eu plein d'histoires dans ce restaurant en 24 ans, qui fait qu'on est complètement ancré dans le restaurant.
Dans le restaurant, oui. Oui, c'était un peu l'endroit où il y a tout le gratin du quartier qui venait avant d'aller chez Castel,
il y a eu pas mal de personnalités, de bons clients. Clients encore fidèles qui nous suivent encore, une clientèle aussi de rugby, parce que c'est en plein milieu de la rue de la Soif, on appelle ça de la rue de la Soif.
La rue de la Soif, ouais.
Donc je vous laisse imaginer la foule lors de matchs de rugby. Et voilà, non, c'est des moments incroyables.
Ouais, j'imagine. Ouais. Et alors, c'est rigolo parce qu'il y a plein de noms en France pour dire restaurant. Il y a bistroquet, bouchon. Donc, c'est des lieux de vie qui sont indissociables de la culture française. Ça veut dire qu'on a un lien quand même presque fusionnel avec
oui,
ces lieux de vie. Hein.
Je pense que partout en France, il y avait un petit bistrot dans chaque village. Paris, des brasseries qui s'ouvraient. Il y a plein de noms. Il y a le caboulot. Le caboulot, c'est un petit troquet. Alors, je ne sais plus dans quelle origine, de quelle région. Oui, c'est vrai, troquet, bistrot.
Et dans Cotentin, il y a un petit nom pour ça?
Dans Cotentin, non, c'est plutôt restaurant. Bon,
restaurant. Alors, au départ, c'est les Auvergnats qui ont transformé le bistrot traditionnel en ajoutant, je crois, des charcuteries régionales. Pour accompagner la carte des vins, parce que c'était surtout justement des lieux où on buvait. Et c'était des débits de boissons qui étaient aussi appelés assommoirs, comme dans le roman d'Émile Zola, où les travailleurs assommaient leurs soucis à coups de verre de vin. Donc on imagine que c'est. Voilà.
Ça, je crois que c'est un peu resté.
C'est un peu resté quand même.
Heureusement.
Bon, alors on va passer une petite musique que vous avez choisie, c'est Johnny.
Oui.
Alors vous pouvez me
alors Johnny,
raconter ce
choix. Ça fait partie de ma génération, je suis baigné depuis tout petit dans ses chansons. C'est un homme que j'ai pu croiser une fois en moto sur les Champs-Élysées. Je vais vous raconter l'histoire, j'avais un petit 125, je remontais, c'était le long du Fouquet's. J'étais au feu rouge et puis j'entends une grosse moto arriver derrière moi. Bon, il se met à côté de moi, puis je commence à le regarder à gauche, puis je rebaisse les yeux. Et là, je sursaute, je regarde à nouveau, c'était Johnny Hallyday, sans casque, avec une crinière blonde. Il me regarde, il me fait un clin d'œil, puis bof, il accélère, il passe le feu rouge, évidemment. Et hop, il a disparu. Et j'ai cherché à le retrouver pour lui serrer la main, impossible. Donc là, voilà, c'est ça. Puis après, j'ai été à quelques concerts, deux, trois morceaux qui me plaisent beaucoup.
Ouais.
Il y a une part beaucoup d'humanité dans cette personne, de croyance religieuse pour Dieu. Il y a des choses sympas.
Ouais.
Et puis, je pense que c'était un gamin qui est tombé là-dedans et qui est resté enfant.
Oui, je pense aussi, un passionné.
Voilà, bon, bah, maintenant, c'est le taulier, c'est des noms comme ça qui ressortent, mais il a su faire une aura, je pense, auprès des jeunes et auprès de nos parents, même grands-parents, qui restera.
D'un public assez large, c'était quelqu'un de très, très humain, en fait.
Oui, très, je pense.
Blessé, très humain, oui.
Tout à fait.
Ouais. On y va, on va écouter l'envie de Johnny. À tout de suite.
Donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un bruit, qui font l'envie de vivre. Pour que j'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, pour me passe des discours et toucher la misère, pour respecter l'argent. Oui, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Pour me donner le jour, pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, pour oublier les toujours. On m'a trop donné.
Alors, vous êtes sur Radio Ali 93.1 avec Rémi Lebon, le chef cuisinier, toujours dans l'émission Les Grands s'amusent. Alors, on parle de gastronomie, de restaurant. La place du vin est importante quand même au restaurant. Et pour ça, j'ai invité Dimitri Labbé, qui est associé de Rémi Lebon et qui, c'est vous qui conseillez en fait le choix des vins dans ce restaurant chez Fernand. Alors moi j'avais une première question à vous poser, Dimitri. Comment est-ce qu'on élabore une carte des vins ?
Bonjour Anne, merci tout d'abord de votre invitation. Comment on élabore une carte des vins ? Il y a certainement une recette magique pour le faire, mais moi je marche un petit peu plus à l'instinct.
À l'instinct.
Donc il y a évidemment des bases qu'il faut avoir, que ce soit en rouge, en blanc, en rosé et en champagne.
Ouais.
Des grandes appellations, des plus petites. Il faut avoir une diversité d'offres, mm-hmm. à la fois dans le prix, dans la qualité, dans les choses connues, dans les choses inconnues. Donc, partons déjà d'une base comme ça, d'une vingtaine de références dans chaque couleur, on dira rouge, blanc, rosé, champagne.
Ouais.
Et après, on agrémente en fonction de ses choix personnels, de ses envies personnelles et également de ce que les clients, après, nous apportent au jour le jour. C'est un partage
entre le client
ouais. et moi ouais. Et ouais. également tout le personnel de salle, hein, parce que ouais. tout le monde est un petit peu passionné.
Ah oui. Ouais.
Et tout le monde aime boire un verre de vin, quoi mmh. qu'il arrive.
Tout le monde,
oui. Oui, tout le monde. Oui, oui.
Chez vous, en tout cas.
On n'en connaît pas beaucoup qui n'aiment pas.
Chez Fernand,
voilà,
il n'y a pas d'eau.
Donc tout le monde y va de sa petite connaissance,
ouais.
Ouais. amène son
ah ouais,
son
donc
idée,
vous êtes ouvert sur si quelqu'un, un client vous dit « Ah, bah,
tout
êtes,
à fait.
Oh,
et c'est souvent comme ça que j'ai fait les plus belles découvertes,
ah oui
d'ailleurs.
Ah oui.
Parce que moi, je n'ai pas fait d'école d'œnologie, je n'ai pas fait de formation en particulier. J'ai appris comme ça au fur et à mesure de mes années d'expérience.
Ouais.
Et souvent, oui, ce sont des clients, des amis qui m'ont dit bah, « Tiens, il y a ce petit vin que j'ai découvert, tel petit producteur ou telle grande maison, d'ailleurs, qui est... Il y a des vins qui sont très difficiles à avoir, mais de fil en aiguille et en connaissance, on arrive à avoir des petites allocations, ce qu'on appelle, c'est-à-dire... Une allocation, c'est vous avez droit à 12, 24, 36 bouteilles par an.
Ah oui,
voilà.
D'accord.
Donc il y a des domaines...
Ça veut dire que c'est des tout petits domaines qui ont...
C'est généralement des domaines qui n'ont pas beaucoup de production,
ouais.
Enfin en tout cas pas aussi grosses que des très grands châteaux ou des très grands domaines de négoce. Et comme il y a énormément de demandes et très peu d'offres, eh bien voilà, ils essayent de satisfaire tout le monde. Donc,
ah ouais. Ouais.
Donc chez Fernand a droit à une allocation de 18 bouteilles par an et il ouais. faut s'en contenter.
Donc là, il faut vraiment les savourer.
Exactement.
si par exemple une cliente réclame un vin rouge sur un poisson en disant ouais, moi j'aime pas du tout le vin blanc, qu'est-ce que vous allez lui proposer? Est-ce que
bah, déjà avec plaisir, hein, parce que moi j'adore aussi boire du vin rouge sur du poisson. Il va falloir des vins un petit peu plus légers,
ouais.
un peu moins robustes évidemment sur du poisson pour aller avec la finesse du produit.
Ouais.
Y a toujours un parallèle de toute manière entre le vin et donc la cuisine, hein, ce qui est servi à l'assiette. Donc il faut essayer d'adapter le vin en fonction. Donc sur un poisson, il peut y avoir des très bons bourgueuils, des bourgognes évidemment, des vins de Loire plutôt légers,
plutôt léger,
peu sur la fraîcheur.
Ouais. Ouais. Et vous faites du vin au verre pour justement faire des goûters
De plus en plus, ça c'est quelque chose qui se faisait peut-être moins il y a 10 ans ou même encore 20 ans quand j'ai commencé dans le métier. Aujourd'hui... On ouvre des magnums pour les faire déguster au verre.
Ah oui.
Ouais ouais.
Pourquoi des magnums?
Ben déjà parce que c'est très joli sur table quand
ouais.
même et
ouais.
c'est très beau à servir. Le vin est censé, enfin il n'est pas censé, il est meilleur dans un plus gros contenant. Il se bonifie.
Il se conserve mieux.
Ouais. Il développe mieux ses saveurs. Donc c'est très agréable de pouvoir faire goûter des vins sur des formats de Magnum.
Ah oui, ok. Et est-ce que les gens sont plus rassurés par des valeurs sûres, par des étiquettes, ou voilà, ils connaissent parfaitement l'appellation?
J'ai envie de vous dire, c'est comme tout consommateur aujourd'hui, il y en a qui sont pros, qui veulent absolument un nom, une marque, une étiquette, et puis il y a d'autres gens qui se laissent guider, qui se laissent totalement faire, et puis il y en a d'autres qui, au contraire, ne veulent pas de marque, de nom, d'étiquette, et qui veulent le petit vigneron qui sort de nulle part.
Mais vous arrivez justement, ces gens-là, à les amener quand même un peu sur des choses nouvelles?
Oui, de toute manière, c'est un petit peu le plaisir dans notre métier, que ce soit quand Rémi sort de sa cuisine et va proposer aux clients j'ai des abats ou des jubilés, ou les gens n'en voulaient pas à la base, mais quand c'est bien raconté, bien expliqué, les gens y vont. On fait pareil sur le vin. Quand quelqu'un nous demande moi je veux un Bordeaux, je veux rester classique, peut-être que tiens, si je te faisais découvrir ça, goûter ça, ça te permettrait de découvrir autre chose. Et à nouveau, c'est un moment de partage et de confiance et de découverte.
De confiance,
c'est de plus en plus, c'est de la confiance entre le consommateur, le client, le restaurateur, le chef cuisinier.
Et puis, si j'ai bien compris, vous avez une clientèle d'habitués, donc des gens justement qui vous font confiance, qui reviennent.
On a beaucoup d'habitués. Ouais. Donc, au fil des années, on arrive à connaître leur goût. Et donc là, on va encore au-delà, et c'est là où notre métier est vraiment passionnant, parce que
c'est un échange
permanent
C'est pas juste vous qui décidez,
une relation qui est impliquée, qui est personnelle, et ça nous permet de encore une fois de faire découvrir des choses qu'on pourrait pas se permettre de faire découvrir à des gens qui viennent pour la première fois.
Bon, merci, on a déjà un bon petit tour d'horizon avec vous, Dimitri Labbé.
Je vous en prie, avec
merci
plaisir.
Merci beaucoup. Alors maintenant, on va prendre au téléphone une jeune chef qui a quelques questions à poser à Rémi Lebon. Voilà, une passionnée qui a ouvert un petit restaurant à Versailles. Qui aime la cuisine végétarienne, brésilienne. Je crois qu'on me dit qu'elle n'est pas encore là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer la musique. Je crois que vous avez choisi Vivaldi en attendant, et puis on la prendra après. Ok. Merci. Nous sommes toujours sur Aligre FM 93.1, Les Grands S'amusent, avec Rémi Lebon. Oui, on rigolait du, de la diversité des choix musicaux de Rémi. Alors expliquez-nous.
Tempête de la mer de Vivaldi, c'est un peu comme un service. C'est un peu comme un départ en bateau de pêche, finalement, ouais. D'un port où on s'attend à une mer un peu houleuse, qui est un service un peu houleux, où il y a du monde qui rentre dans le restaurant, ouais. Où il y a des bruits d'entrechocs d'assiettes, de couverts, des rires, des cris parfois. Bon. Ouais. Et après, c'est une musique qui s'apaise à la fin, donc le service se termine, le bateau rentre au port.
C'est rigolo.
Ouais, je trouvais ça une métaphore assez
sympa. C'était une belle métaphore, ouais. Merci en tout cas.
Présenté.
On va pouvoir parler à Amandine.
Oui, bonjour.
Bonjour Amandine, tu vas bien ?
Ça va, et vous ?
Oui, tu nous entends bien ?
Écoute, je t'entends, est-ce que toi tu m'entends ?
Oui. Alors on est en direct, donc tu peux parler à Rémi, enfin lui poser tes questions.
Bonjour Amandine.
Okay. Bonjour Rémi, je me présente rapidement, donc je suis Amandine, je suis une chef végétarienne autodidacte.
D'accord.
Voilà. Et du coup, par rapport à mon univers, à moi, qui est la cuisine végétarienne, ma première question, c'est quel regard portez-vous sur l'évolution de cette cuisine végétarienne, effet de mode ou prise de conscience? Alors, c'est pas du tout une question à polémique, parce que moi-même, je ne suis pas végétarienne.
D'accord.
Mais ça m'intéresse d'avoir votre avis sur un petit peu ce qui se passe.
Alors... Moi, je laisse la porte ouverte à toutes les formes de cuisine. Et la cuisine végétarienne est une... C'est pas forcément un effet de mode, mais plutôt une prise de conscience, effectivement, comme vous l'avez souligné, où les gens, actuellement, en plus avec cette pandémie... se recentrent un peu sur eux, dans le bien-être. Le bien-être, c'est aussi bien manger. Le végétarien, bon, se prive de viande, alors ça, je pense que je ne suis pas tout à fait malheureusement d'accord pour tout ce qui est... dans l'humain, on a quand même besoin de protéines animales. En revanche, c'est une manière de travailler, de proposer une nouvelle offre à des gens qui pensent un peu plus à eux et peut-être à leur bien-être.
Super.
Voilà.
Génial.
J'avoue que dans l'aventure de chez Fernand, on travaille de plus en plus les légumes. On a aussi des clients qui nous demandent des plats végétariens et on répond bien évidemment à l'offre.
Super.
Voilà.
Tu peux poser ta deuxième question, Amandine, si tu veux.
Du coup, ma deuxième question, c'est quels sont les secrets pour conserver ce métier passion, le plus longtemps possible ?
Je crois que la passion, quand on l'a, elle ne s'en va pas, on ne démord pas de sa passion. Et je pense que pour la faire perdurer, il y a un travail de transmission entre passionnés, donner l'envie aussi, et aussi d'accompagner cette personne qui est passionnée. Est-ce que j'ai été clair pour vous ?
Oui, bien sûr. Non, mais je me posais cette question, notamment au sein d'un même établissement pendant de longues années. Est-ce que, voilà, il y a des choses qui sont mises en place aussi pour bouger un peu le quotidien, les habitudes.
C'est vrai. Alors,
ça peut être très contraignant aussi.
Il y a la passion qui, je pense, est le fer de lance de notre métier. Et tout en suivant l'évolution du métier aussi, comme on parlait tout à l'heure des végétariens ou d'autres manières, je pense que cette passion peut perdurer, en étant bienveillant, bien sûr, dans la transmission aux jeunes. Et de les accompagner en tant que tels.
Super.
Voilà.
Et enfin, une petite question plus légère pour un petit clin d'œil à nos univers culinaires différents et à nos origines, je crois.
Oui.
Beurre ou huile d'olive ?
Je ne vous ai pas entendu. Là.
Beurre ou huile d'olive ?
Alors, alors, les deux, mais plus le beurre.
Bon, je crois qu'on avait compris.
Oui, voilà. On a des plats chez Fernand où on traite des très belles huiles d'olive, d'ailleurs. Qu'on recherche, c'est aussi une très belle saveur et d'arôme. Et le beurre, si je vous dis que je passe 5 kilos de beurre par jour au restaurant pour mes cuissons, pour mes pâtisseries, j'ai pas envie de dire le beurre c'est la vie, mais c'est quand même pas mal, quoi.
Bon, merci.
Je vous en prie.
Merci Amandine d'avoir appelé. Bonne journée à toi. Au revoir. Alors, à propos de transmission, c'est quelque chose qui vous anime, Rémi?
Oui, c'est depuis très longtemps ancré. Depuis même lorsque j'étais à la Vieille Fontaine, j'ai pris des apprentis sous mon bras, les former, les accueillir, les bichonner aussi un petit peu, parce qu'on est un peu le deuxième père. Et puis moi, ça m'est toujours resté de vouloir transmettre un métier passionnant à des jeunes qui veulent bien recevoir ce métier passionnant en tant que passionné. Et donc chez Fernand, le travail, c'est on a un apprenti par an qui reste 2 ans généralement chez nous, et puis une flopée de stagiaires qui viennent taper à la porte d'écoles, de 3 écoles différentes. Et ça, il y a Ferrandi, il y a une autre école qui est dans le 17e, j'ai oublié le nom, là j'ai un petit trou de mémoire, Jean Drouet, voilà. Et aussi, je travaille avec une école d'Amante-la-Jolie, que j'aime beaucoup. J'y vais pour des jurés d'examen, je rencontre des jeunes qui sont de cité, qui... Bon, alors, bien sûr, il y a beaucoup de déchets parce qu'ils sont un peu parachutés là-dedans, mais il y a quand même quelques petites pépites. Et ceux-là viennent chez nous en stage, 1 mois, plus 1 mois, et j'en ai suivi quelques-uns qui, maintenant, travaillent dans des restaurants et qui ont un poste et qui sont très fiers de ce qu'ils y font.
Et ça, c'est quand vous dites que c'est des gens qui viennent de cité, ou ce sont des jeunes qui n'ont aucune formation quand ils viennent chez vous ?
Alors, ils ont déjà un an, peut-être 6 mois ou 1 an d'école, ils ont déjà touché à d'autres choses, mais je pars du principe que je laisse la chance à tout le monde. C'est-à-dire que celui qui... veut venir chez Fernand et qui veut travailler, je lui demande juste d'être à l'heure et de sourire. Et après, ça va tout seul.
Et après, vous les prenez sous votre aile.
Après, on montre ce qu'on sait faire, on partage. Il n'y a jamais eu de problème. En revanche, parfois, dans le recrutement, on arrive à avoir des chefs de partie avec une batterie de CV, avec... énormément d'adresses où ils sont allés, et au bout d'un mois, ça ne le fait pas. Donc maintenant, le CV, je ne regarde même plus. Je dis, vous rentrez, vous faites un essai, ça vous plaît, vous restez.
Ah oui. Parce que c'est vraiment une question de motivation, et peut-être quelqu'un qui est peut-être trop formé, moins souple, ou... non, c'est pas ça.
Il y a tout. Malheureusement, il y a tout. On peut avoir une personne très bien, puis un mois après, sombre dans... dans diverses choses, parce qu'il y a eu des problèmes. Donc, y a un peu de ça aussi. Il y a des très pointus qui se disent j'aurais préféré viser un restaurant de meilleure qualité au-dessus, par exemple.
Ouais.
Bon, ça arrive aussi. Hein. Voilà.
Oui, donc il y a vraiment de tout. Et comment ça se passe dans vos cuisines, justement? Parce qu'on voit beaucoup de reportages sur les cuisines où c'est la brigade, où le chef a une image quand même très autoritaire.
Alors, c'est vrai que je dirige, mais ce n'est pas de façon autoritaire, de façon pragmatique. Et puis surtout, on est 4 en poste fixe, et la cuisine n'est pas très grande. Et du coup, on peut accueillir un jeune ou deux. Donc on reste 6. Donc là, il y a des plans de travail qui sont prêts à les recevoir. Et puis, comme la cuisine est tout petite, moi j'ai l'œil sur eux, on a tout sous la main. Et puis voilà, c'est surtout ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a cette passion de leur transmettre, dire voilà, c'est génial de faire ça, c'est génial de transformer un produit, de le cuire, de faire un bon plat qui est goûteux. Et moi, je leur dis toujours, le sourire, c'est quand le sourire du client est très important, de voir que ça se passe bien, que le client revient. Donc c'est tout ton travail derrière avec toute l'équipe. Et alors, je les contrains évidemment à des horaires où on commence nous à 9h en cuisine. On s'arrête à 11h30 pour déjeuner. À midi, on ouvre les portes du restaurant. Dernière réservation jusqu'à 14h30. Donc, généralement, les jeunes sont partis à 15h. Quand ils ont plus de 18 ans, pour les stagiaires, on les fait revenir à 18h. Alors, on refait un peu de mise en place. On redîne, voilà, un petit moment pour dîner. Et puis on rouvre le restaurant et jusqu'à 23h30, dernier client.
Ouais, ça fait des bonnes journées.
Ça fait des bonnes journées. Ouais.
Et à propos, justement, je voulais vous demander, c'est quoi une journée type avec Rémi Lebon ? Parce que vous, est-ce que vous allez à Rungis le matin ? Comment ça se passe ?
Alors, dans le temps, j'y allais. J'avoue que, en vieillissant...
c'est
non, mais surtout, on a la chance d'être à Paris et de se faire livrer tous les jours.
Ouais.
Une journée type chez Fernand, c'est 9h changée en cuisine. On a bu le café avant et on reçoit les marchandises, évidemment, qu'on vérifie. Et puis, de fil en aiguille, on construit. Ben, le gigot arrive attelé, ça s'appelle une culotte d'agneau. Il faut le désosser, le ficeler, le mettre à cuire. Donc ça, on fait des plats aussi pour le lendemain, parfois.
Ah oui.
Les plats mijotés avec des longues cuissons, ça se fait le lendemain.
Ouais.
Donc on prévoit, le poisson arrive entier, il faut fileter. Les légumes aussi, pareil.
Filter.
Donc, filter, c'est mettre en filet, pardon.
Ah oui, d'accord.
Et,
non, mais c'est bien, c'est intéressant.
Là, c'est la saison des Saint-Jacques. En temps normal, on en fait 25 kilos. Donc, il faut les décoquiller. Et donc, on apprend le geste aux jeunes.
Ouais.
Et puis, tout le monde s'y met. Il n'y en a pas un qui chôme.
Ah oui, d'accord. Voilà. Tout le monde fait
et
la même chose.
Tout le monde est prêt pour le service.
Tout le monde doit savoir tout faire. C'est ça ?
Je pense que, oui. Ma vue de l'ensemble de la cuisine, c'est que chacun peut se remplacer dans chaque poste.
Oui.
Et ça tourne plutôt bien chez nous.
Ah oui.
Ouais. En revanche, je reviens encore au travail du geste. Le geste est hyper important. Donc cette mise en place du matin est ultra importante pour les jeunes. Très fort, c'est très formateur.
C'est très formateur, oui. Vous êtes un adepte des produits de saison ?
Complètement.
Voilà, vous n'allez pas mettre de la fraise en hiver.
Il n'y a pas de tomates l'hiver chez nous, chez Fernand, par exemple.
Ouais.
Et on travaille les produits de saison uniquement.
Ouais, donc ça c'est
donc là,
vraiment.
Les asperges arrivent, les fraises arrivent.
Ça c'est vraiment une responsabilité que vous avez comme.
Enfin, je sais pas si vous avez déjà goûté une tomate en hiver. Autant
si.
Prendre un melon qui a pas de goût, c'est pareil.
Ça n'a pas grand intérêt.
Et puis on parle de l'empreinte carbone évidemment, on parle plein de choses. Une tomate de jardin quand vous l'accueillez en août ou en septembre, c'est merveilleux.
Ouais.
Voilà.
Ça n'a rien à voir.
Il n'y a rien d'autre à dire.
Ouais.
Une belle asperge.
Ouais.
Les petits producteurs en Normandie, moi je vois, ils font des petits navets, mais ils sont sucrés, il n'y a même pas besoin d'en rajouter quoi que ce soit.
Ouais.
Juste cuit dans le beurre, c'est merveilleux avec un canard rôti, par exemple.
Ouais, donc on peut faire des choses assez simples.
Mais complètement. D'ailleurs, des grands chefs comme Alain Passard, qui font que des légumes dans son restaurant, a compris ça depuis longtemps et sublime le produit.
Oui.
Quand vous goûtez un céleri... J'ai la chance de faire la recette d'Alain Passard du céleri boule cuit dans du gros sel.
Oui.
Prenez le céleri, il a un goût merveilleux. C'est sublimé.
Oui.
Non, c'est très bien pensé.
C'est très bien pensé, ouais. C'est vraiment c'est vraiment en amont savoir choisir ses producteurs.
Pareil pour l'hiver, quand tous les champignons arrivent, les cèpes, les girolles, ça sent le sous-bois quand vous entrez dans la cuisine.
Oui.
Puis un demi-sanglier à découper. Voilà, c'est ça la vraie vie de cuisinier.
Ouais. C'est des choses simples.
Et on fait beaucoup de terrines aussi. Moi, je fais mes terrines maison.
Oui.
Et c'est aussi une spécialité de la maison.
Mmh.
Et c'est aussi une alchimie, la terrine. C'est de la viande mélangée avec plein de bons produits et pour en faire un seul produit, finalement.
Oui. Alors, vous mélangez, il y a un peu d'alcool, non ? Il y a un peu de...
Je mets un peu de cognac, moi, dans mes terrines.
Cognac.
Et puis, des pistaches, des chairs de différentes viandes.
Vous nous donnez l'eau à la bouche, là.
Ah oui, ça, c'est...
Alors moi j'avais aussi envie, est-ce que si, bon aujourd'hui on parle pas mal des étudiants malheureusement qui ont des petits budgets pour cuisiner, est-ce que vous auriez une recette à leur donner, facile, simple et pas chère, voilà,
alors,
on va tout mettre.
Alors j'ai trois enfants, dont deux étudiantes, et sur les trois il y en a une qui aime bien aller au marché, donc... Elle fait parfois la cuisine à ses sœurs. Et c'est des plats simples. Par exemple, vous prenez un butternut. Butternut, c'est en pleine saison d'hiver. Vous le coupez en 8 dans le sens de la longueur. Disposez sur un plat avec un filet d'huile d'olive, du gros sel et du poivre au four. Vous le laissez cuire. Et ça devient une purée de butternut juste à gratter sur la peau, qui est merveilleuse.
Oui. Mais alors, comment est-ce qu'on choisit ce produit ? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller acheter un butternut qui était gonflé d'eau. Et finalement, le produit n'était pas bon.
Alors, bon, là, vous êtes mal tombé.
Ah non, je suis mal tombée.
Il y a des choses simples. Il y a des choses très simples. Même l'été, un poivron coupé en 8, une courgette et un peu d'aubergine, vous faites ça rissoler à l'huile d'olive en laissant un petit craquant un peu cru. Et puis, c'est merveilleux. Là, il y a les petits pois qui vont arriver. Bon, alors, ça demande de les écosser. C'est pas grand-chose.
C'est un peu de boulot,
Et cuit dans l'eau salée et jusqu'à ce qu'il soit bien vert et bien cuit, stop.
Tout simplement.
Voilà. Puis, mélangé avec une noix de beurre, vous avez un accompagnement formidable.
Donc, on peut quand même bien manger... pour un budget qui est quand même relativement...
Alors c'est vrai, on peut bien manger, je pense, avec... pour un étudiant, c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment un gros budget.
Oui.
Mais la viande est chère pour un étudiant, un poisson, n'en parlons pas. Mais on peut faire plein de choses avec les œufs, par exemple. Les œufs, c'est pas cher.
Ah oui, oui.
Il y a quelques morceaux de viande qui sont moins chers, par exemple la joue de bœuf. Mmh. Bon, après, il faut savoir la cuire, évidemment. Mais là aussi, il y a une question d'éducation. Demander à ses parents ou ses grands-parents comment ils cuire la joue de bœuf pour faire un bon pot-au-feu, par exemple.
Oui, oui.
Alors, c'est 2-3 heures de cuisson, évidemment. Ça demande un peu... C'est vrai que pour un étudiant sur une plaque électrique, il ne peut pas faire ça.
Mmh. Donc, choses simples, par exemple, avec des œufs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Un blanc de poulet, par exemple, découpé en petits morceaux. Rissolé, un peu de légumes dedans qu'on garde un peu cru, et puis juste vous rajoutez un peu de lait de coco, puis vous laissez réduire.
Ah oui, oui.
Ça, c'est, ma fille fait ça, elle adore.
Des saveurs,
puis un peu de saveur d'Asie, un peu de piment.
Ouais.
Après, on peut faire des choses plus simples aussi avec de la crème fraîche, pourquoi pas.
Hein. Ouais, d'accord. Et vous, c'est quoi votre plat signature?
Le plat signature chez Fernand. Alors, il y a le bœuf bourguignon.
Ouais.
Alors, l'histoire, c'est que... d'abord, j'ai eu la chance de rencontrer un serveur qui travaillait chez Fernand avant qu'on reprenne, qui est au Canada, que je salue, et qui m'avait envoyé les anciennes cartes de chez Fernand. Et il y avait le bœuf bourguignon. Mais j'en faisais déjà avant. Et puis, j'ai toujours aimé ça. C'est côté vin rouge, Bourgogne, les œufs morettes derrière. On peut faire plein de choses avec cette sauce du bœuf bourguignon. Nous, on l'a lancé dès l'ouverture, en choisissant de la joue de bœuf. Ça, c'est un des secrets. Il y a d'autres trucs. Et puis, ça a tout de suite bien marché. Puis c'est un plat mijoté, on le présente en cocotte en cuivre, ça arrive, il y a l'accompagnement. C'est ce que recherche, en tout cas, chez Fernand, cette cuisine bourgeoise. Il y a aussi l'agneau de 7 heures, qu'on fait régulièrement, une cocotte de riz de veau au mori quand c'est la saison. Il y a plein de choses comme ça. Une fricassée de pintade, simplement une fricassée de pintade. Ma grand-mère faisait un poulet Providence, qui était un poulet revenu au cognac, vin blanc, oignon. D'une simplicité. Et ça dégage beaucoup de parfums. Et voilà, ça, c'est des petits plats comme ça que j'aime bien.
Et c'est vrai que c'est des petits plats qui mijotent, qui prennent un petit peu de temps, pas forcément dans la préparation, mais dans la cuisson.
Dans la cuisson, surtout.
Et c'est vrai qu'avec le confinement, on a eu le temps un peu plus de cuisiner.
Bien sûr.
Et peut-être qu'on revient juste à des plats comme ça, peut-être un peu plus traditionnels,
Je pense qu'aussi, il faut faire confiance au cuisinier qui est derrière le fourneau. C'est-à-dire que nous, on fait tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on fait nous-mêmes nos fonds. Alors, les fonds, c'est des énormes... marmite où mijote des os de veau, des légumes, etc. On fait nous-mêmes nos bisques de homard, on fait nous-mêmes nos fumées de poisson.
Ah oui.
Donc, c'est des apports de saveur qui fait aussi la différence sur le plat.
Ouais.
Le homard, on en fait souvent et moi, j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Et c'est un plat aussi très festif.
Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Alors, si vous aviez un message à faire passer aux jeunes? Ça serait
ensemble, Anne, et la phrase, c'est... Moi, ce que je trouve à dire aux jeunes, c'est qu'il faut qu'ils osent.
Oui.
Il faut... Alors, je ne vais pas dire foncer, parce que foncer, c'est... On ne peut pas tout voir, mais il faut oser entreprendre et puis y aller, quoi. Enfin,
être curieux.
Oui, être curieux, surtout curiosité aussi, bien sûr.
Pas avoir peur de sortir des sentiers battus.
C'est pas grave s'il y a un échec, on se relève toujours d'un échec, et surtout... Ça fait grandir aussi, il faut avancer.
Ouais.
Les jeunes de maintenant, il faut avoir l'envie, comme on écoutait avec Jeannelle, l'envie d'avoir envie, c'est d'oser. Quoi. Il faut y aller.
C'est ça. Ouais.
Et il y aura toujours des gens pour les accompagner là-dessus.
Oui, ils trouveront toujours. Ouais. Merci Rémi Lebon. On est déjà en fin d'émission. C'est passé très, très vite. On aura encore plein de choses à dire et merci pour cette belle transmission dans la gourmandise. Et puis continuons à croquer la vie.
Exactement.
Merci Dimitri Labbé aussi de nous avoir parlé du vin.
De rien.
On a passé une émission, on s'est régalé et puis on a envie d'aller cuisiner maintenant. Hein.
Mais, à bientôt.
À très bientôt. Merci.
Merci
beaucoup à la technique. Je remercie Harry Jepson, Dorian Barreto et Julien Bondeau. Voilà, merci de nous avoir accompagnés pendant l'émission. Et puis, je vous retrouve dans 15 jours. Donc, on sera le 8 avril pour une nouvelle émission. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Au revoir. Just